VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Le président Barack Obama a conclu hier sa tournée au Kenya et en Éthiopie par un discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Il y a parlé non seulement de développement et de démocratisation en Afrique, mais aussi de la protection des droits des homosexuels. D'où les reproches de certains auditeurs qui accusent Barack Obama de chercher à imposer l'homosexualité aux Africains. La réponse du journaliste René Lec, patron de CNEPLUS.com.
Non, pas du tout. L'homosexualité, c'était vraiment en passant. Aujourd'hui, l'Amérique n'a pas de prise sur ce débat-là en Afrique. Je pense que l'Amérique en est consciente et donc ne passe pas beaucoup de temps. Je pense que les questions centrales, c'était la problématique du terrorisme, le problème de la corruption, la problématique du troisième mandat en Afrique, donc la question du respect des constitutions. Ça, ce sont des questions centrales, des questions de développement. Et les peuples africains, ce sont ces questions-là qu'elles se posent. Les questions de leur sécurité, la question de l'équité et de la croissance économique qui ne peut pas se faire sans une lutte contre la corruption, la question du respect constitutionnel, donc la problématique des trois mandats, la problématique des investissements en Afrique, il en a longuement parlé, la question des femmes, qui est une question centrale également à toute problématique de développement. Donc voilà les grandes questions sur lesquelles le président Obama s'est penché.
Le journaliste René Lec, joint ici même à Washington. Toujours concernant l'Afrique, le chef d'état-major interarmes américain, le général Martin Dempsey, a prodigué hier quelques conseils à des diplomates et militaires des principaux pays, contributeurs de troupes, aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'était lors d'une allocution à New York. Jacques Aristide.
Le général Martin Dempsey les a invités à pallier les importantes lacunes en équipement dont souffrent certaines missions en Afrique notamment et à mettre en place des forces de réaction rapide pour intervenir sur les conflits avant qu'ils ne deviennent ingérables. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-il plaidé. Le déploiement rapide d'unités dans les 30, 60 ou 90 jours, pour une période limitée, peut aider à résoudre les crises naissantes, à prévenir l'extension des conflits et à sauver des vies innocentes. L'ONU déploie dans le monde 16 missions de maintien de la paix, avec quelques 126 000 casques bleus et un budget annuel de plus de 7 milliards de dollars. Ce département, dirigé par le français Hervé Latsou, a vu son importance grandir depuis quelques années, rapporte l'AFP. Mais sa tâche, en particulier en Afrique, Mali, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan ou Soudan du Sud, est de plus en plus complexe et dangereuse et il est en butte aux critiques après la révélation d'abus sexuels commis par des casques bleus. Cette intervention du plus haut gradé américain, la première du genre, témoigne d'un regain d'intérêt des États-Unis pour les casques bleus. Le président Barack Obama participera à un sommet sur ce thème le 28 septembre à New York, en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU.
Au Sénégal, deuxième jour de la conférence internationale sur le thème « Islam et paix », le Sénégal épargné jusqu'à présent par les violences des groupes islamistes radicaux comme Boko Haram, a souligné hier le président sénégalais Macky Sall, Claire Morin-Gibourg.
C'est d'un ton dramatique que Macky Sall a ouvert la conférence.
Alors que nous tenons ces assises, le fracas d'une violence meurtrière continue de résonner à travers le monde, semant la mort et la désolation. Par des actes insensés, des extrémistes de tous bords s'acharnent à prendre la religion en otage. D'autres s'entêtent dans une islamophobie tout aussi répugnante qui nourrit la peur et la haine du musulman.
L'islam que nous voulons, c'est un islam de paix et de tolérance, a renchéri le président sénégalais. Le Sénégal, pays à 95% musulman, a jusqu'à présent été épargné par les violences des groupes islamistes radicaux qui touchent les pays voisins. Le chef de l'État sénégalais s'exprimait à l'ouverture d'une conférence de deux jours, organisée par l'association islamique Jamiyatou Ansaroudine, fondée dans les années 40 au Sénégal et qui s'est développée dans plusieurs pays, notamment au Nigeria. Pour lutter contre l'extrémisme, Macky Sall a insisté sur l'importance de, je le cite, « construire une paix sociale en corrigeant les inégalités qui nourrissent le sentiment d'exclusion ».
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram maintenant. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, attendu aujourd'hui au Cameroun pour des entretiens avec son homologue camerounais Paul Biya sur les moyens d'éliminer le groupe islamiste nigérian qui se livre à des attaques dans l'ensemble du bassin du lac Tchad. Le général Buhari s'est déjà rendu au Tchad et au Niger, mais son séjour au Cameroun revêt un caractère particulier vu la méfiance entre Abuja et Yaoundé à cause de leur ancienne querelle au sujet de la péninsule de Bakassi. On écoute le journaliste camerounais Jean-Marc Sobos au micro de Timothée Donangmaï.
On imagine que les deux pays vont s'accorder sur la guerre contre Boko Haram. Ça a été souhaité depuis par les experts entre les deux pays, ces deux pays qui s'esquivaient avant la dernière visite d'ailleurs du président Muhammadu Buhari aux États-Unis. Il avait écrit, il avait écrit une tribune dans le New York Times, je crois, où il citait les pays avec lesquels le Nigeria entendait travailler contre Boko Haram. Et là-dedans, il n'a pas cité le Cameroun. Et ça n'a échappé à personne.
Les efforts conjugués du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun ont permis de briser l'élan de Boko Haram sans pour autant éliminer ce groupe.
Il y a une force multinationale qui a été créée et devait mobiliser environ 10 000 personnes. Mais je veux dire que dans les faits, cette force n'est pas encore opérationnelle. On a vu l'armée tchadienne s'impliquer au Cameroun avec un certain succès et s'impliquer également au Nigeria, au nord-est du Nigeria. C'est l'armée tchadienne qui est entrée dans les deux pays. Et ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que l'armée tchadienne a appuyé le Nigeria et puis a essayé d'appuyer également d'une certaine manière le Niger. Jusqu'à présent, c'était pas quelque chose d'organisé, c'était pas quelque chose de concerté. Tout ce qui était concerté est resté assez théorique, comme la fameuse force multinationale mixte. Ça va se jouer au bilatéral, c'est-à-dire que le Cameroun va traiter avec le Nigeria, va traiter avec le Tchad. Je pense que, d'une certaine manière, tous ces pays se méfient de l'implication des pays comme la France, il faut le dire, qui existe déjà avec l'opération Barkhane qui est basée à N'Djamena. Donc, il y a une certaine méfiance et ils préfèrent traiter, n'est-ce pas, de pays en pays. Ce qui restait effectivement dans ces négociations, c'était que les Nigérians entre finalement en contact avec les Camerounais parce qu'il y avait une très très grande méfiance jusqu'à présent entre ces deux pays.
Le journaliste Jean-Marc Sobos joue à Québec au Canada. En Tanzanie, volte-face de l'ancien Premier ministre Edward Lowassa a fait défection du parti au pouvoir en accusant cette formation de dictature à l'approche de la prochaine présidentielle, Eddie Sango.
Je ne suis plus l'un de leurs, a déclaré Edward Lowassa. Il a claqué la porte de Chama Chama Pinduzi à 3 jours de la fin de l'enregistrement des électeurs pour l'élection présidentielle couplée aux législatives et communales devant se tenir le 25 octobre. L'ancien Premier ministre avait au cours du mois de juillet tenté sans succès de décrocher l'investiture de Chama Chama Pinduzi pour la présidentielle. Il accuse désormais les dirigeants du parti d'être devenus des non-démocrates, des oppresseurs et de se livrer à la chasse aux sorcières. Âgé de 61 ans, M. Lowassa avait été inculpé dans un scandale de corruption qui lui a valu de démissionner de son poste de Premier ministre en 2008. Il est désormais membre de Chedima, une formation de l'opposition. Les partis qu'il quitte dominent la vie politique en Tanzanie depuis 40 ans, alors que le pays est gangréné par la corruption.
Actualité américaine, Jonathan Pollard, un fameux espion américain emprisonné aux États-Unis depuis 30 ans, va retrouver la liberté en novembre, chez Ruben Dorsil.
Jonathan Pollard, un juif américain, fut pendant un temps analyste civil du renseignement pour la marine de guerre américaine, la US Navy. Mais un jour de novembre 1985, il est arrêté alors qu'il tente de se réfugier à l'ambassade d'Israël à Washington. Jugé et condamné d'avoir transféré des secrets militaires à l'État hébreu, il sera envoyé en prison à perpétuité. On n'a jamais vraiment su l'ampleur des activités d'espionnage de Pollard, mais un rapport de la CIA de 1987, déclassifié en 2012, précise qu'il avait livré des informations sur les pays arabes et l'Union soviétique. 30 ans durant, Washington a refusé de le libérer, et ce, en dépit des pressions du gouvernement israélien, qui s'est excusé en 1987, a accordé la citoyenneté israélienne à Pollard en 1995 et admis 3 ans plus tard qu'il avait été margé de son budget.
Voilà, c'est tout. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com, mais aussi sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.